Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Blaise Jordan Shindani Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal Ituri, tension à Marabo après la mort d'un chef du FPIC, la RN27 perturbée. Selon des sources coutumières locales, les miliciens accusent l'armée d'être impliqués dans la mort de leur chef ainsi que de ses deux gardes du corps. Pugna, 21 enfants décèdent de la rougeole. Une campagne de vaccination annoncée. Face à cette situation préoccupante, le médecin directeur de l'hôpital général de Pugna appelle les parents à éviter l'automédication. Alors que la riposte contre Ebola mobilise de nombreux acteurs humanitaires en Ituri, l'ONG Sofepadi, en collaboration avec l'UNICEF, mise sur les journalistes pour prévenir les cas d'exploitation, d'abus et de harcèlement sexuel. Radio Kapi reçoit pour cela, Dieu merci, Lissongomi, chargé du projet de cette ONG. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et merci d'avoir fait confiance à la radio de la paix pour vous informer. Commençons en Ituri où la situation reste tendue et confuse. C'est jeudi matin à Marabo, une localité située à une quarantaine de kilomètres au sud de Bunia, dans les territoires du Rumwanituri. Des échanges de tirs ont opposé les FARDC à des miliciens des FPIC, le Front Patriotique et Intégrationniste du Congo. Selon des sources coutumières locales, ces derniers accusent l'armée d'être impliquée dans la mort de leur chef, connu sous le nom de Hérode, ainsi que de ses deux gardes du corps. Les trois hommes ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi lors d'une fusillade à Nyakoundé, une localité voisine de Marabo. Cette situation a fortement perturbé la circulation sur la route nationale numéro 27, principal axe reliant Bunia à Komanda. Les détails avec Martial Kizabiamongo.
Des hommes armés identifiés comme des éléments du FPIC, également appelé Chiniakilima, ont attaqué ce jeudi matin des positions des FARDC à Marabo. Selon plusieurs sources locales, ces miliciens en colère veulent venger la mort de leur chef Hérode, tué avec deux gardes du corps lors d'une fusillade avec des hommes armés non identifiés mercredi soir vers 20h à Nyakoundé. La tension est également vive dans les centres de Nyakoundé en cause le décès dans la nuit de mercredi à jeudi. Une patiente souffrante d'anémie et épouse d'un milicien du FPIC à l'hôpital général de Nyakoundé. Après cette disparition, des jeunes, dont plusieurs seraient affiliés au FPIC, sont descendus dans la rue. Selon plusieurs témoignages, ils auraient saccagé une partie des installations du centre de traitement d'Ebola. À ce stade, la situation demeure tendue. Les autorités coutumières et plusieurs acteurs locaux multiplient les appels au calme afin de rétablir la sécurité et de permettre la reprise normale des activités socio-économiques. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, l'ONG Groupe d'Action pour la Protection de l'Enfance GAP dénonce les recrutements d'au moins 56 enfants par des groupes armés Wazalendo dans les territoires de Walikale. Selon l'organisation, ces recrutements ont été enregistrés durant les deux premières semaines des vacances scolaires. GAP poursuit sa sensibilisation auprès des groupes armés et appelle les autorités civiles les militaires à renforcer la lutte contre les violations graves des droits de l'enfant, notamment les recrutements au sein des forces armées. Boyomba Mishikibams, coordonnateur des GAP, s'exprime au micro de Bernardin Nyangi.
Dans le village de Kilungu, on a recensé quelques enfants là-bas, en tout aussi, on a identifié quelques enfants. Dans le village de Nsindo, dans le groupement Oloroba, on a identifié aussi quelques enfants. Village de Biungu Mungote, Sengu, on a identifié aussi quelques enfants. Dans le secteur de Bakan aussi, village Tebero, on a recensé aussi quelques enfants. Au total, c'est 56 enfants. Il y a ceux qui se trouvent dans le groupe armé Uhuru, du général Machite, et les autres, ils se retrouvent dans le groupe armé Wazalendo de Kalumendo à Itebero. Les enfants, ils ont quitté leur famille volontairement pour aller rejoindre les groupes armés en disant qu'ils sont en train de chercher les objets classiques pour l'ouverture de l'année scolaire. Maintenant, nous continuons toujours à faire la sensibilisation et les plaidoiries au niveau des autorités si on peut libérer ces enfants. Puisque la place des enfants, ce n'est pas dans l'armée, la place des enfants, c'est à l'école et en famille.
En mai dernier, 122 enfants, dont 36 filles, avaient été retirés des groupes armés, puis réunifiés avec leur famille à Walikale, grâce à l'appui d'ONG partenaires de l'UNICEF et du PDDRSC. GAP regrette la poursuite de ces recrutements malgré les engagements signés il y a 2 mois par certains groupes armés, dont Uhuru et Raia Mutomboki. Au sud Kivu voisin, les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles pour de nombreuses familles de déplacés de retourner dans le groupement de Mbinga Nord en territoire décalé, accueillis par la plupart par des familles hôtes dans les villages de Mukwija, Kinyesire, Ruunde, Simbibi, Karango, Mweha, Nyabibwe et Bujuki. Ces ménages peinent à couvrir leurs besoins les plus élémentaires. Selon la nouvelle société civile de Calais, une assistance humanitaire d'urgence s'impose. Son président indique que les besoins les plus pressants concernent notamment les abris, l'alimentation, les soins de santé ainsi que les activités génératrices de revenus. Benjamin Munganzi est joint par Ronéline Tibonera.
Lors d'identification, nous demandons aux partenaires de passer porte à porte sans épargner ceux qui vivent dans des chambouettes pour pallier au conflit lors de la distribution et comme tous sont en difficulté ou en besoin. Certaines organisations ou ONG sont en train de passer porte à porte et rejeter ceux qui sont dans des chambouettes. En cas d'affichage, plusieurs personnes ne se retrouvent plus et sans tenir compte des personnes de la troisième âge malgré là qu'ils sont. La nouvelle société civile lance un cri d'alarme aux organisations gouvernementales et non gouvernementales, aux ONG telles que Fonds Social, Croix-Rouge, GIV, BDCA, AFSI, NRC, en mettant l'accent sur le partenaire PAM de réaliser leurs promesses et s'impliquer tous et venir en aide de les déplacer et retourner dans le groupement de Mbinga Nord et plus particulièrement ceux qui sont dans des villages de Mukwija, Kinesire, Ruhunde et Chibimbi, Karango et Mweha, Nyabibwe et Bujuki afin qu'ils puissent améliorer leurs conditions de vie.
En plus bref, signalons cette vive tension hier mercredi à Kalemi, après le cambriolage d'une dizaine de boutiques au marché de Lubuye dans la commune de Lukuga. Selon des sources locales, l'incident s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi lorsque des bandits armés de machettes et d'autres armes blanches ont attaqué plusieurs commerces emportant d'importantes sommes d'argent ainsi que diverses marchandises. Indignés par cette recrudescence de l'insécurité, des commerçants sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère. Ils ont notamment barricadé la principale route menant au marché. Lors des échauffourées qui ont suivi avec la police, une femme a été blessée et plusieurs jeunes ont été interpellés. Le maire de Kalemi s'est rendu sur les lieux afin d'apaiser les tensions et d'échanger avec les manifestants. 21 enfants de moins de 5 ans sont décédés de la rougeole à l'hôpital général de référence de Punia depuis le mois de juin dernier. Jusqu'à ce jour, plus de 2089 cas ont été enregistrés, selon les médecins directeurs de cette structure sanitaire, le docteur Amissima Koutanon. Face à cette situation préoccupante, il appelle les parents à éviter l'automédication et annonce le lancement prochain d'une campagne de vaccination. Le docteur Amissi Makutano est joint par Florence Kizalunga.
Nous sommes en train de suivre les informations et instructions qui nous viennent de notre hiérarchie, notamment de la DPS. Et juste en train de dire, je vais vous dire qu'il y a une campagne qui se prépare contre la rougeole, contre la rubéole et contre la poliomyélite. C'est une campagne intégrée qui va intervenir contre 3 maladies au même moment. Cela voudrait dire que, comme nous sommes en train d'enregistrer les cas de la rougeole ici, les flambées chez nous ici, en tout cas, ça se fait presque partout. Voilà pourquoi le gouvernement congolais avec ses partenaires ont encore décidé, en tout cas, de venir intervenir à travers la vaccination de masse. Donc, on va faire une campagne contre la rougeole. Cette fois-là, on ne va pas se limiter seulement à la cible des moins de 24 mois, mais on va administrer cette vaccination chez les enfants nés. Parce que même si vous voyez, au cours de cette flambée ici, vous allez enregistrer qu'il y a des enfants de moins de 9 mois qui sont malades, des enfants de plus de 5 ans qui sont malades et ils présentent des signes patents de la rougeole. Voilà pourquoi on a pris en considération les enfants de 6 mois qui doivent recevoir cette vaccination-là contre la rougeole, contre la rubéole et contre la poliomyélite au même moment.
Ici à Kinshasa, l'hôpital général de référence de Kinkole, situé dans la commune de Lancélé, est doté d'un nouveau laboratoire moderne d'analyse biomédicale. Il a été inauguré hier mercredi par le représentant du ministre national de la Santé et l'ambassadeur de la France en RDC. Cette infrastructure a été réalisée dans le cadre du projet Labo Kin, financé par l'Agence française de développement en partenariat avec les autorités sanitaires congolaises. Des détails avec Askin Zigbatayoro.
L'ouverture de ces laboratoires est un signe de renforcement de capacités diagnostiques des structures sanitaires de la capitale congolaise. Le directeur général du groupe Agence française de développement, Christophe Le Courtier, a souligné l'importance du renforcement des infrastructures sanitaires pour améliorer les systèmes de santé face aux épidémies et aux défis sanitaires actuels que connaît le pays. D'après son allocution, l'accès à des analyses biologiques fiables constitue un maillon essentiel dans la prise en charge de patients. Ce laboratoire est équipé de matériels modernes répondant aux normes internationales. Il permettra d'améliorer considérablement la qualité et la rapidité des examens biomédicaux au bénéfice des populations de l'Est de Kinshasa. En termes clairs, les patients ne pourront plus parcourir de longues distance pour accéder à certains examens spécialisés. Ce laboratoire fait partie d'un ensemble de 5 autres laboratoires similaires construits à Mbakana, Maluku, Makala et Kumbondo dans le cadre du projet Labo Kin. La mise en service de ce laboratoire permet de former 300 professionnels de santé, lesquels vont assurer la pérennité des équipements et la qualité des prestations offertes aux populations. Il faut noter que la construction de ce laboratoire est évaluée à 12 millions d'euros.
Santé encore face à la progression de l'épidémie d'Ebola qui touche désormais 5 provinces du pays, à savoir l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Haut Uele et la Tchopo. Les députés nationaux ont auditionné ce mercredi le ministre de la Santé publique dans le cadre de leur mission de contrôle parlementaire. Devant la représentation nationale, Samuel Roger Kamba a fait le point sur l'évolution de la maladie en revenant sur les principaux défis de la riposte, notamment les difficultés de mobilité dans certaines zones touchées et la méconnaissance de la maladie par une partie de la population qui retarde souvent le dépistage et la prise en charge des malades. On écoute Samuel Roger Kamba dans cet extrait proposé par Grace Hamzati.
Nous avons actuellement 2011 cas confirmés de maladie à virus Ebola avec 744 décès, ce qui fait une létalité de 37,5%. Nous avons 42 zones de santé qui sont touchées dans 5 provinces et la province de l'Ituri, malheureusement, est le grand épicentre de cette épidémie. 90% des cas sont dans l'Ituri. Il y a 9% des cas qui sont dans le Nord Kivu et les autres provinces se partagent 1% de tous les cas que nous avons répertoriés. La riposte que nous avons développée en 2 mois, selon les déclarations de l'OMS, a été très robuste avec plus de 14 laboratoires, plus de 700 lits qui sont déployés en 1 mois et demi. Tous les cas sont aujourd'hui testés et le diagnostic est donné souvent dans les 24 heures par l'INRB et Kinshasa n'a pas encore enregistré un seul cas positif.
Pour clore ce chapitre santé, sachez que l'hôpital général régional militaire de Kikwit a réceptionné ce mercredi plusieurs tonnes d'équipements médicaux destinés à renforcer la qualité de la prise en charge des patients. Parmi ces équipements figurent notamment des lits d'hospitalisation, des scanners, du matériel de conservation et de stockage des sangs, ainsi que des appareils de laboratoire et bien d'autres dispositifs médicaux. Bien que militaire, cet établissement accueille également des patients civils. Il a aussi pour mission de réduire les évacuations sanitaires vers d'autres villes, notamment Kinshasa. Vanessa Kongoro pour les détails.
Pour la direction de l'hôpital, cette dotation marque une étape décisive dans l'amélioration du système de santé dans l'espace Grand Bandundu. Le lieutenant-colonel Alexis Mpoati, médecin directeur de l'hôpital général régional militaire de Kikwit, explique.
Nous sommes vraiment satisfaits. L'hôpital, c'est un hôpital militaire, donc régional de référence. Et c'est un hôpital qui va desservir toute la population de Grand Bandundu en général. L'hôpital n'a pas de choix. Il reçoit les militaires, les personnels civils à la défense, mais aussi les civils. Toute la population peut se servir de cet hôpital.
Selon Manix Manda, chef de la délégation de la société Beder Construit qui a livré ses matériels, les trois conteneurs réceptionnés représentent déjà plus de 80% des équipements commandés par les ministères de la Défense.
Nous sommes heureux de se retrouver aujourd'hui ici en train de livrer ces outils qui vont normalement permettre aux militaires d'être bien pris en charge du côté de la santé. Un premier lot qui représente plus de 80% de ce qui était commandé. Le deuxième lot va arriver incessamment.
Grâce à un plateau technique moderne répondant aux standards des hôpitaux de référence, l'établissement pourra renforcer ses capacités de diagnostic et de traitement tout en réduisant les évacuations sanitaires vers Kinshasa.
Trop de contrôles routiers, trop de taxes. Les chauffeurs de taxis voyageurs assurant la liaison entre le Congo central et Kinshasa dénoncent les nombreuses tracasseries auxquelles ils sont confrontés sur la route nationale numéro 1. À Mitendi et à Matadikibala, ils pointent notamment la présence de multiples services de contrôle, les arrêts répétitifs ainsi que les paiements des taxes qu'ils jugent injustifiés. Selon eux, cette situation rallonge considérablement le temps de trajet et entraîne d'importants retards, aussi bien pour les transporteurs que pour les passagers. Ils appellent les autorités compétentes à intervenir afin de mettre fin à ces pratiques et mieux encadrer les agents déployés sur cet acte routier. Élise Kavira pour les détails.
À peine un contrôle terminé qu'un autre commence. C'est le quotidien qui dénonce les chauffeurs des taxis voyageurs sur la route nationale numéro 1. Entre Mitendi et Matadikibala, ils disent faire face à de nombreuses tracasseries qui ralentissent leurs activités et pénalisent les passagers. Ces conducteurs ayant requis l'anonymat témoignent.
Dès qu'on arrive à Mitendi, il y a des agents qui nous font payer une taxe qu'ils appellent interurbain qui coûte $30. Ils nous font payer en même temps un jeton de stationnement. Quand tu arrives au niveau de Matadikibala avant d'atteindre Cité Verte, qu'il y a un autre bureau. Là encore, ce sont des tracasseries terribles.
Mais les chauffeurs ne sont pas les seuls à subir les conséquences de ces arrêts à répétition. Dans les véhicules, les passagers dénoncent eux aussi des trajets de plus en plus longs et éprouvants. Cette voyageuse, fatiguée par le voyage, témoigne de son mécontentement.
Les chauffeurs sont obligés de s'arrêter tout le temps. Même si tu as des urgences, tu ne peux pas espérer rouler jusqu'à Kinshasa sans perdre du temps sur la route. Nos autorités voient ce qui se passe ou ne voient pas.
Pour ces chauffeurs des taxis interprovinciaux, il est urgent que les autorités assurent un contrôle rigoureux et régulier des services étatiques déployés sur la route nationale numéro 1 afin de mettre fin aux tracasseries qui perturbent le transport entre le Congo central et Kinshasa. Matadi, Elis Kavira, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Mali, troisième journée d'audience est jeudi 15 juillet. À la cour d'appel de Bamako dans le procès de la tentative de complot contre le gouvernement, les 6 co-accusés sont liés à l'ancien président de la transition Bandao qui avait été nommé à ce poste par les militaires auteurs du coup d'État d'août 2020 avant d'être renversé en mai 2021 par ces mêmes militaires parce qu'ils voulaient écarter certains d'entre eux du gouvernement. Lors des 2 premières journées d'audience, 5 des 6 accusés se sont déjà exprimés. Le colonel Kassoum Goïta, ancien chef de la sécurité d'État, s'est défendu ce mercredi en déballant ses vérités sur les militaires au pouvoir.
L'invité.
Alors que la riposte contre Ebola mobilise de nombreux acteurs humanitaires en Ituri, l'ONG Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral, SOFEPADI, en collaboration avec l'UNICEF, mise sur les journalistes pour prévenir les cas d'exploitation, d'abus et de harcèlement sexuel. Samedi 11 juillet dernier à Bunia, une vingtaine de professionnels des médias ont été sensibilisés aux mécanismes de prévention, des signalements et de prise en charge des victimes. Dieu merci, Lissongomi, chargé du projet de la SOFEPADI, s'entretient à ce sujet avec Jean-Claude Lokidile.
Dieu merci, Lissongomi, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi vous avez pensé inviter les journalistes dans le cadre de sensibilisation dans la lutte contre abus, exploitation sexuelle et harcèlement? Qu'est-ce qui vous a motivé?
Dans le cadre de riposte contre Ebola, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humanitaires qui sont arrivés dans le cadre de la riposte. Avec l'expérience de l'épidémie dans le Nord Kivu, où nous avons observé beaucoup d'abus, et cette fois-ci, nous avons voulu travailler sur la prévention. Et cette prévention passe par le message de sensibilisation, par des renforcements des capacités. Et aujourd'hui, c'était le tour des hommes de la presse pour qu'ils soient aussi outillés. Et nous avons la ferme conviction que le message sera relayé et qu'on va insister sur l'aide humanitaire qui est gratuite. Et que ce soit, quelle que soit la situation dans laquelle nos bénéficiaires se retrouvent, dans le cadre de principe, il est interdit aux humanitaires d'échanger les biens, les sexes, ou la promesse d'un emploi contre des faveurs sexuelles.
Qu'est-ce que concrètement vous attendez des journalistes?
C'est que nous avons passé en revue les principes qui sont édictés par les normes IASC dans le cadre de la lutte contre les abus et exploitation sexuelle, dans leurs émissions, dans leurs communications vis-à-vis des communautés. Ils vont relayer ces messages-là qu'il est interdit, par exemple, d'avoir des relations sexuelles avec une personne de moins de 18 ans en tant qu'humanitaire. Il est interdit à nous, humanitaires, d'échanger de l'argent, la promesse d'un emploi, les biens contre des faveurs sexuelles. Ce sont ces messages-là que nous attendons à ce que les hommes de médias relaient ça au niveau de la communauté.
Quel constat avez-vous fait sur le terrain? Est-ce que le problème a une grande ampleur ou bien c'est juste pour prévenir?
C'est vrai que parmi les humanitaires, il peut s'avérer qu'il y a des brebis galeuses, mais le plus important, c'est de travailler dans la prévention pour qu'un cas d'abus et exploitation sexuelle, c'est déjà un cas de trop. C'est pourquoi nous insistons vraiment sur la prévention. Mais également, nous avons communiqué un certain nombre de mécanismes de dénonciation. Il y a un numéro interagence qui permet à toute personne qui est au courant de tels abus de dénoncer ça de manière anonyme en utilisant les numéros interagence 49 55 55.
Ce qui pousse aussi ces bénéficiaires à aller vers ces humanitaires, c'est aussi leur situation, leur statut, leur état de précarité. Est-ce qu'il ne faut pas aussi en amont combattre cette précarité pour qu'ils soient à l'abri de tentations des humanitaires?
On est conscient que le bénéficiaire était déjà beaucoup plus touché dans le cadre de conflits armés. Dans la plupart, ils sont déplacés et à cela s'ajoute l'épidémie d'Ebola qui accroît encore davantage leur vulnérabilité. Ce que nous pouvons faire au-delà des interventions qui vont dans le sens de leur apporter de l'aide, c'est aussi de travailler sur la prévention pour que nous ne puissions pas, nous en tant qu'humanitaires, profiter encore de cette vulnérabilité et essayer d'accroître la vulnérabilité de ces personnes en abusant, en demandant par exemple des faveurs sexuelles.
Pour la plupart des cas, ces victimes hésitent. Vous l'avez écouté dans la salle, peut-être qu'elle a eu une faveur, un travail grâce auquel maintenant elle gagne dignement sa vie. Dénoncer encore le boulot, l'auteur, c'est un peu difficile, quoi. Quel message vous pouvez adresser à toutes peut-être les personnes victimes qui sont dans le silence, qui ne savent même pas où dénoncer ou qui sont dans cette situation-là de faiblesse et qui ne peuvent pas malheureusement dire dénoncer ouvertement?
Voilà, donc dans nos principes humanitaires, l'aide est gratuite. L'emploi qu'on vous fait chanter là, c'est un emploi que vous pouvez gagner si vous méritez. Les sacs de riz que vous demandez, c'est un sac de riz qui vous revient de plein droit parce que vous êtes dans une situation de vulnérabilité. C'est pourquoi nous insistons pour dire que attention, que personne ne vienne vous tromper que c'est grâce à moi que vous avez eu ces sacs de kaunga, grâce à moi que vous avez cet emploi. Non.
Dieu merci, Lissongomi, je vous dis merci.
C'est à moi de vous remercier.
C'était notre invité, Dieu merci, Lissongomi, chargé du projet de l'ONG Sophie Paddy, qui s'entretenait avec Jean-Claude Lokidile. Et c'est ce qui met fin à ce journal de la mi-journée préparé pour vous par Élisée Chikota Chivueta et Jean-Gandou Kabongo. La mise en onde était assurée par Alain Goy. Ce journal est à suivre sur notre page TikTok et à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.